Bonsoir, bonsoir. Radio Libertaire, de nouveau, nous sommes sur l'antenne de Radio Libertaire. De nouveau, nous sommes là tout court, en fait. Comme souvent, le vendredi soir, un peu plus tard ce soir. Salut, bonsoir à tous, c'est le Poznan Radio Show. Bonsoir Serge, bonsoir Guy, bonsoir Yves.
Bonsoir.
Ah, c'est expédié, hein.
Bonsoir.
Oh, il s'est expédié, j'en avais marre d'attendre. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, de nouveau sur l'antenne, en direct, je précise, même si je me répète. Radio Libertaire, c'est le 89.4 sur la bande FM sur Paris. C'est en DAB+, le multiplex
9A.
Je l'attendais. 9A. Ah, il ne faut pas se tromper. Et sur internet, radio-libertaire.org, anarchiste.info et Radio Libertaire, Mixcloud. Voilà, ça c'est fait. Ok, c'est bon. Alors, comme d'hab, quelques annonces. De la librairie Publico, je reprends mon souffle s'il m'en reste. Ah, voilà, sinon je vais mourir, j'ai déjà mort de fatigue. Demain samedi 16h, formation professionnelle, grand détournement, projection, débat. Dimanche 11, 16h toujours, concert avec Nathalie Solance, accompagnée de Claude Guen à la guitare et Jean-Pierre Egeldinger à l'accordéon. Ensuite, le 18, le dimanche suivant, 16h30, le phare, Front homosexuel d'action révolutionnaire, projection de débat à l'initiative du groupe libertaire d'Ivry, de la fédération anarchiste, bien sûr. Puis, mercredi, on change de jour, le 21 à 20h, ciné commune, Villa El Salvador, les bâtisseurs du désert. C'est un documentaire réalisé, écrit par Jean-Michel, ou écrit, réalisé plutôt, par Jean-Michel Rodrigo et Marina Pogam, qui date de 2008. Puis pour finir, le 25 dimanche 15h30, causerie populaire et libertaire, paysannerie, pesticides, non merci. Voilà, alors avant de se lancer dans quelques discussions que ce soit, un morceau pas très long et on revient tout de suite après.
Thank you.
Radio Libertaire, ils avaient omis de préciser que c'est l'émission de Post Non Radio Show. J'ai un peu expédié l'intro. Chers amis, mais néanmoins camarades de la bande des quatre, quoi de neuf, docteur ?
Ah, moi, de mon côté, j'ai une pensée un peu triste vis-à-vis de la mort de Robert Badinter, parce que c'est lui finalement qui a été à l'origine, bien sûr, de l'abrogation de la peine de mort, mais aussi de la dépénalisation de l'homosexualité. En fait, pendant la campagne électorale de 1981, il était donc aux côtés de François Mitterrand, et juste avant le premier tour des élections présidentielles, il avait indiqué à François Mitterrand effectivement communiqué à François Mitterrand le sort qui était réservé aux homosexuels. Et donc c'est lui qui a effectivement soufflé à l'oreille de Mitterrand de prévoir une dépénalisation de l'homosexualité. Donc voilà.
C'est ce que Mitterrand a fait dans sa grande mansuétude.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on aurait, s'il n'avait pas soufflé ça à l'oreille de Mitterrand, on aurait pris beaucoup de retard au niveau des droits des homosexuels. Voilà. Je pense que c'est important à signaler. Et voilà. Mais tout n'est pas gagné, malheureusement. Il y a encore beaucoup d'homophobie. Et voilà, parce que je ne me souviens plus du numéro de l'article, en tout cas. Ça date du régime de Vichy. Ça datait du régime de Vichy. Et donc, ça discriminait tous les homosexuels. Donc voilà. Merci à Monsieur Badinter d'avoir fait évoluer nos droits.
Formidable.
Ben oui.
Ah ben oui, j'ai rien à dire, si tu veux. J'ai rien à rajouter.
Non, mais je pense qu'il n'y a rien à rajouter de plus.
Il était temps.
Voilà.
Donc,
c'est la peine de mort aussi. C'était.
Oui, c'est la peine de mort aussi, mais
parce que c'était encore un sujet très très discuté.
Oui. Quand les choses sont faites, on le dit. Hein, ici.
Oui, oui.
On le dit. Oui. Oui. Ouais.
C'est quoi ce silence là ?
Eh bien, ce silence.
Ce silence de mort.
Ce matin, je suis allé avec pas mal d'autres. On s'est retrouvés donc pour l'incinération de Thierry Delaveau. Voilà, donc ouais, il y avait beaucoup de monde, des anciens de la radio, quoi. Des anciens de la radio, mais surtout des anciens aussi du label Visa, de tous les gens qui ont travaillé au niveau de la musique. Là, c'est des musiques donc un peu alternatives de l'époque punk. Et la création, Thierry, c'est lui qui a fait la création du label Visa. Et pour la première fois, donc, a été édité en cassette, hein, c'était des cassettes audio à cette époque-là, mais qui ça s'est très très bien diffusé, et puis c'était très très pratique, et bien d'acheter les cassettes et puis de pouvoir avec les mini cassettes et les baladeurs de diffuser cette musique de ce label.
Il a fait Walkman.
Comment ?
Les Walkman.
Ah, les Walkman, oui, ça s'appelait comme ça aussi, oui. Et puis donc. Le groupe Les Verruriers Noirs ont vu eux leur musique diffusée par ce label. Ça a été un des premiers d'ailleurs groupes qui est passé par ce label développé par Thierry. Et puis d'autres après, parce que Thierry a participé à des émissions ici sur Radio Libertaire, hein, Trafic, émission Trafic notamment. Et puis donc avec sa compagne. Et que dire. Trisomie aussi. Oui, il a participé à plusieurs émissions vraiment au fil des années qui passent très vite. Voilà. Il y avait beaucoup de monde pour l'accompagner. Je trouve que c'était très très bien. Quoi. Voilà. Oui. Que dire en plus Nous, on ne s'est pas fait d'illusions, c'est-à-dire tout le monde n'est pas toujours prêt pour être libre, justement, pour aller accompagner des anciens copains. Je ne suis pas toujours libre là, j'étais content d'y être. Et sachez que quand on y va, on vous représente tous aussi.
Merci beaucoup.
Hein? Ouais, mmh. Oui. Ouais.
Ok.
On pense à tout le monde.
Mmh. À propos de Banater, là, je viens de me rappeler que j'avais vu un film dans le temps et que je viens de retrouver qui s'appelait Great Freedom. Sous-titre l'homosexualité était leur prison. Et ça rappelle que en Allemagne, être homosexuel en Allemagne était puni jusqu'en 1969 et interdit selon le code pénal jusqu'en 1994.
Ah bravo, c'est bien.
Donc ça racontait l'histoire d'un mec qui se retrouvait en taule et qui en sortait pas parce que c'était une histoire un peu affreuse, mais je crois basée sur un fait divers.
Ouais, il y a eu un film, je crois.
Great Freedom.
Oui, c'est ça, oui, il a un an et demi, deux ans.
Prix du jury, Un certain regard à Cannes, cinéaste autrichien, sur la répression des guerres en Allemagne, inspiré de faits divers, de faits réels, pardon. Dans l'Allemagne post-nazie. Et donc ça prouve que ce truc n'était pas si facile à faire quand ça a été fait en France par Badinter, et ça montre son importance, disons.
On enchaîne.
Voilà, mais. Tu as connu peut-être Henrik Agnès, donc sa compagne.
Oui, très peu quand même. Voilà, j'ai croisé plusieurs fois.
Oui, comme moi. Et puis, à une époque, on se réunissait beaucoup au Studio Campus. Hein, pareil, qui était régi par Agnès et puis Thierry. Voilà, oui. Donc on arrivait à les voir quand même aussi comme cela, parce qu'ils étaient aussi actifs pour la radio en tant qu'animateur d'émission. Voilà. Que rajouter que la semaine dernière, je pense, on s'est quitté et je vous ai dit, y a un texte sur dans le monde libertaire, pourquoi boycotter Google. Donc il y a boycott, je dis bon, s'ils ont fait
un article Google, comme moi ça. C'est Google qui ne veut pas me boycotter.
Oui, alors pourquoi déjà okay. Bon, j'ai cet article sous les yeux. Est-ce que pour discuter dessus, il y a sans doute évidemment à discuter, bien sûr, mais moi je me sens pas très compétent, mais est-ce que je lis l'article et que vous allez trouver quelque chose à... vous avez de l'expérience sur Google et puis sur d'autres alternatives sur...
Ah oui, on avait commencé à en discuter, c'est
oui,
vrai.
Oui, voilà, rapidement, ça on a discuté, on a dit, ça sera peut-être à discuter. Hein,
à part qu'ils s'y misent partout... qu'ils ont leurs règles, que tu comprends pas forcément tout le temps, qui s'immiscent et qui s'imposent comme étant, comme voulant être les seuls. Enfin, c'est assez. Ils pratiquent également une sorte de politique d'expression comment on dit, de liberté d'expression qui est un peu particulière quelquefois. Quoi dire de plus? J'ai résumé c'est un peu la facilité Google, hein, aussi.
Il y a la façon dont il faut remonter en première page certaines informations plutôt que d'autres. Alors, j'ai pas les choses en tête là, mais peut-être qu'ils en parlent dans l'article. Il y a les choix de l'algorithme, donc pour propulser. En fait, quand on cherche quelque chose, on cherche sur les premières ou deuxièmes pages et pas plus, quoi. Alors qu'il y a des milliers de pages en réponse. Et donc, pour faire monter certaines réponses plutôt d'autres en tête, ils ont un algorithme qui est obscur, apparemment. C'est cette obscurité qui reste un problème.
Alors, c'est souvent. Alors, je trouve que c'est une forme un peu, déguisée. Parce que ils disent être à ton service, mais en même temps, ils sont quand même assez intrusifs. Par exemple, tu as affaire à un sujet X ou Y qui te concerne. Soit par le biais de recherche, soit par un mail, soit par Et ben après, on te propose des choses similaires. Tu te retrouves avec des pubs qui ont trait au même sujet. Tu te demandes comment ils ont fait.
Oui, c'est vrai.
Alors, quand tu fais les recherches, tu comprends. Quand tu es sur la plateforme générale, tu dis « Ok, l'algorithme fait que j'ai cherché, je sais pas moi, des carottes bio de couleur orange à tel endroit, dans tel magasin. » Et ils vont ensuite te proposer bon, ben, toutes sortes de carottes, etc. Et, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que quelquefois, tu as l'impression même qu'ils ont une vue sur tes mails et qu'ils vont savoir, ils vont quelquefois te proposer des trucs qui ont trait à ce que tu crois être ta vie privée. Mais en fait, une boîte mail, c'est pas privé du tout. Déjà, tu reçois des pubs sur une boîte mail. Je comprends pas du tout pourquoi on reçoit des pubs sur une boîte mail. C'est censé être privé, donc en fait, c'est pas du tout privé, quoi.
Je reçois pas de pubs sur ma boîte
mail. Moi, j'en reçois.
Bah, t'as mauvais réglage ou je sais
pas.
Bah
oui, ben je sais pas régler. Puis je suis là, je me dis, oh là là, comment je fais? Je ferai ça demain.
Ah, mais t'as pris le truc de... en Gmail.
Pardon?
C'est sur Gmail.
Ouais. Ah, je te parle de Gmail, ouais, ouais.
T'es pas obligé.
Donc, je trouve ça, il y a un côté.
C'est l'histoire de réglage.
Enfin, ça paraît.
Et puis, tu peux mettre des blocs pub.
Attends, j'enlève mon pub parce qu'aujourd'hui, j'ai chaud.
Ah, ouais. Alors, effectivement, Hendrik, ce que tu viens de développer, on en a causé tout à l'heure avec Yves et puis Serge. Bon, lire tout l'article, c'est très long. Vous avez dit l'essentiel. Yves m'a dit l'essentiel déjà tout à l'heure.
Il y a un truc drôle. J'ai eu un accident de voiture.
Bon,
j'étais pas responsable, disons. Mais enfin, alors que j'étais même pas dans la voiture. Et donc, j'ai fait une photo de ma roue arrière droite complètement défoncée. Et alors, ça a transité sur le site de l'expert. Bon, très bien. Et récemment, dans la suite de pubs que j'avais après une recherche sur Google, je n'avais que des publicités pour des pneus et des jantes de voiture.
Ah oui, ça c'est le...
Ça, c'est...
Donc voilà, il y a un côté pernicieux.
J'ai regardé du début jusqu'à la fin, j'étais surpris à la première, je me suis dit, tiens, un pneu, bon, mais enfin, bon. La deuxième, et donc je me suis mis à regarder ces trucs que je regarde normalement jamais, et jusqu'à la fin, à faire défiler, je n'avais que des jantes et des pneus. Ça, alors, ça m'a amusé, ouais. Parce que j'imaginais pas quand même... Alors, quand je fais, moi, une photo et que je me la garde sur mon portable, j'ai pas ce genre de phénomène. Mais là, il y a un échange. Il y a eu un échange, puisque j'ai fourni la photo à l'expert qui continue à le mettre sur son site, qui est accessible, alors là, je ne sais pas à qui.
En fait, ils profitent de
tout. Au garagiste, à l'expert. Je ne sais pas si sur leur logiciel, dont je ne citerai pas le nom, mais qui est très bien, est ou non protégé pour ce genre de choses. Je ne sais pas du tout. C'est des histoires de réglage, hein.
En fait, ils profitent de toute communication pour...
Oui, c'est là le truc, oui.
Pour te refourguer un tas de trucs, tas de propositions de produits ou de...
Et puis ensuite,
l'utilisation de tel et tel truc.
Ces données qu'ils collectent, elles sont quand même revendues à des sociétés qui les utilisent pour faire du ciblage publicitaire, te proposer des trucs, des machins, etc. Donc c'est
un peu comme si c'était sur YouTube, tu vas regarder, je sais pas, 2-3 vidéos sur le catch ou 2-3 vidéos sur la K-pop.
Ça y est, t'es pris là.
Et ben voilà, tu vas avoir des dizaines de vidéos sur le catch. Donc ça, mais alors le pire, c'est qu'il y a quelque chose, comme la photo de Yves qui est censé quand même être sa photo, sa photo privée quand même.
Oui.
Elle concerne pas.
C'est là que ça va pas.
Google. Et là, voilà, ici mis, c'est non, mais de toute façon, c'est il y a très longtemps déjà que beaucoup ont pointé le danger de cette chose, c'est-à-dire que
et en plus, je refuse les publicités ciblées, c'est-à-dire que je reçois les publicités que tout à chacun reçoit s'il cible pas normalement. Donc je vais vérifier que ça n'a pas changé, parce qu'il y a eu des changements récemment. Bon, et donc il y a pu y avoir une modification sans que je le veuille, mais c'est assez surprenant, disons. Mais ça me fait rigoler, mais c'est une lutte incessante pour empêcher les photos d'immigrer, de migrer sur le net, enfin des trucs comme ça.
Donc d'un côté extrêmement pratique, qui te facilite la vie juste à l'extrême, et avec le pendant plutôt désagréable qui est cette espèce de d'intrusion permanente. Et alors d'après eux, ils vont te dire c'est pour votre c'est pour vous rendre service. Alors sous couvert de rendre service, il y a cette intrusion. Donc c'est quand même pernicieux tout ça. Alors, enfin on n'est pas les premiers à pointer ce genre de problématique. Voilà, donc moi je par flemme j'utilise tout ça, je trouve ça éminemment pratique, mais en même temps je trouve ça éminemment pernicieux, quoi.
Moi, quand Google est sorti comme moteur de recherche, je l'ai installé sur tous les ordinateurs de là où je travaillais, parce que je trouvais ça tellement génial par rapport aux autres moteurs de recherche qui ramaient et répondaient des résultats qui n'étaient pas du tout ce qu'on attendait, quoi.
C'est pour ça que tu t'es fait virer.
Non,
c'est... Non, je rigole.
Non. Mais ils ont un très bon moteur de recherche, c'est vrai. Maintenant, la Commission européenne avait mis en place un autre dont j'ai plus jamais entendu parler, que j'avais essayé de charger, mais en fait, ça sélectionnait pas vraiment les bons sites.
Et puis tout est à base. Pour pousser un peu plus loin dans le côté pernicieux, tout est à base de alors, je vais pas dire de chantage, mais disons, on va utiliser un terme un peu plus soft, de contrainte. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas tel logiciel, telle plateforme avec de la pub, faut payer. Faut payer un abonnement, sinon, écoute... Tu as de la pub, alors par exemple, tu vas regarder une vidéo d'une demi-heure sur YouTube, tu vas avoir une coupure pub toutes les 10 minutes. Ce qui rend le visionnage de la vidéo absolument ignoble, parce que ça devient pénible, quoi.
Et c'est très mal coupé en plus. C'est très mal interrompu en plus.
Ça coupe n'importe quand, et donc c'est ça, il y a une espèce, il y a une contre, il y a pas, c'est pas une espèce, c'est une contrainte. Je dis soft, mais en même temps, elle est pas soft, cette contrainte. C'est une contrainte. C'est soit tu payes un abonnement à tel tarif, soit tu participes à la vie de la plateforme et tu bouffes toutes les publicités qu'on t'impose. Mmh. Donc voilà, c'est ce côté-là obligatoire, imposé, contrainte. Et ça contrevient complètement avec leur discours, qui était le discours au début d'Internet, c'est Internet, c'est la liberté. Et tu te rends compte que,
C'est quand même une soumission volontaire, hein. T'es pas obligé de prendre celui-là.
C'est très difficile d'y échapper, hein.
Je sais très bien que c'est une soumission volontaire, Yves, mais je t'explique. Que t'amène aussi à être soumis, et que... Tous ces beaux discours sur la liberté, la liberté d'Internet, la praticité, le monde merveilleux de l'informatique et d'Internet, tout ça cache la contrepartie de...
On a quand même beaucoup avancé, parce que grâce à l'Europe, alors évidemment c'est plus lourd, mais lorsqu'on achète une machine, que ce soit de poche comme un téléphone ou un ordinateur, avant il y avait des logiciels liés à Microsoft par exemple qui étaient... installés, c'était les seuls, et c'était difficile de mettre autre chose, alors que maintenant, ils sont obligés de laisser la place à d'autres. C'est un peu la même chose avec Chrome actuellement et Google, mais maintenant, il y a une obligation quand tu installes ton téléphone ou ton ordinateur, tu as différents choix qui te sont proposés et tu peux en prendre d'autres. Mmh. Donc ça a quand même un peu évolué grâce à la RGDP. Le problème, c'est que maintenant, à chaque fois qu'on clique sur un site, il faut avec le réglage que j'ai fait, en tout cas qui a refusé tous les cookies, et ben je suis obligé de me taper à chaque fois un truc, est-ce que vous acceptez les cookies, et puis les cookies œufs, et c'est pas des gâteaux dont je parle, et puis quelquefois il y a des sites, parce que je mets aussi des bloqueurs de publicité pour avoir la paix, alors ça marche très bien, et quelquefois il y a un site qui se révolte et qui me demande vous comprenez, etc, blabla, et donc comme je peux pas acheter tous les sites, enfin tous les journaux sous forme papier, et je regarde au moins le début de l'article, et donc ça me dit vous ne verrez pas du tout l'article, à moins que vous ne désactiviez votre bloqueur de publicité, et à quoi je réponds par l'extinction du site. Désolé pour les journalistes qui y travaillent.
Donc voilà, c'est
mais je peux pas tout regarder. Donc moi j'achète Le Monde sous forme papier, et le Canard Enchaîné, bien sûr, qui n'achète pas Le Canard Enchaîné ne peut pas être au courant de ce qui se passe dans notre tellement beau pays. Voilà.
Mais tu ironises là.
Ah non, c'est vrai. Ils ont un tas d'informations, y compris dans Le Monde. Je les défendrai, ça, il n'y a pas de problème. Il y a des fois où je ne suis pas du tout content parce que, disons, par exemple, la gauche est au pouvoir et alors ils publient des trucs contre la gauche, des conneries qu'ils font, et donc tu te dis, ah oh là là, quel journal de salaud, ils insultent la gauche. Ensuite, c'est la droite, tu te dis, ah oh là là, quel journal de salaud, ils insultent la droite. En fait, ils ont une ligne qui est très intéressante et surtout, ils ne sont pas encombrés par la publicité puisqu'il n'y a pas de publicité dans leur journal, et ils vivent sans publicité. Apparemment bien, ça va.
Donc voilà, toutes ces énormes sociétés...
Et je ne suis pas payé pour faire de la publicité pour Le Canard Enchaîné, c'est juste une habitude d'achat, peut-être liée à je sais pas quoi. Quand j'étais plus jeune, c'est un journal qui me plaisait pas du tout. C'est bizarre le revirement que j'ai eu. C'était un journal, ça me paraissait un journal satirique, un peu pas sérieux, etc. C'est très très sérieux et très très bien foutu. Et c'est rare que leurs informations soient attaquées ou soient fausses ou des trucs comme ça, quoi. Là, par exemple, il y a une petite bisbille entre notre nouvelle ministre de la Culture et puis Le Canard. Elle a écrit une petite lettre pour dire « Mais je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. » Et ils maintiennent. Ils font une réponse où ils maintiennent. Où est-ce que c'est ce truc? Faut pas y attacher plus d'importance que ça, mais j'ai pas noté. J'ai lu, c'est tout.
Donc il y a quand même un danger de Big Brother avec tout ça.
Oui, oui. Ce qu'on peut dire, oui.
Il y est aussi avec les médias que nous avons. Malgré toutes les sécurités.
Oui, mais ton journal à papier, il va pas savoir que. T'as telle liste de numéros et de gens sur ton téléphone. Moi, je me suis abonné, j'ai ouvert un compte sur Instagram et je me suis retrouvé à avoir des comptes proposés de gens à qui je ne parle plus depuis des années. Où ont-ils trouvé les informations de ces gens alors que je les ai effacés de mon téléphone depuis longtemps ? Et je me retrouve à revoir des gens que je ne fréquente plus depuis X temps, dont les coordonnées ne figurent plus pour certaines sur le téléphone, on me les propose.
C'est là que ça va pas, oui.
Et c'est là où je me dis, ça va pas, où t'as été fouillé, quoi.
Oui.
Alors, je suppose que j'ai dû laisser des adresses mail, j'ai pas tout nettoyé, etc. Et c'est ce côté-là que j'aime pas. C'est ce côté, on est archi-présent, on veut te rendre service, regarde, c'est formidable. Oui, mais je suis désolé, cette personne, je lui parle pas depuis 10 ans. Pourquoi tu me proposes ton compte, quoi? J'en ai rien à foutre. Donc, le côté Big Brother, sous des intentions de louable, de rendre service, entre guillemets, à l'humanité, elle est vraiment à prendre avec des pincettes, hein. Voilà, on en a fini sur ce sujet.
Bah oui, parce que la fin de l'article, il parle des... les aéroports, c'est pareil, on montre souvent son portable, parce que il est, comme ils disent, à Paris, il y a les Jeux Olympiques, il va y avoir les Jeux Olympiques, et il y aura beaucoup d'endroits où il faut se connecter avec des QR codes. Et il dit, ça y est, vous connectez avec un QR code, hop, il dit, vous êtes sur Google et...
Mais ils vont savoir où tu vas.
Et voilà, on sait où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a pris comme avion, et puis tout, on est connecté.
Quel trajet tu as pris.
Et là, c'est malaise déjà, oui.
Dans quel restaurant tu as mangé, etc.
Alors que les gens, c'est vrai que c'est pas mal, c'est... T'es satisfait, t'as un truc, t'as une plaque d'un seul coup sur un mur, t'as un QR code, clac, 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 tu sais que t'es sur un site, je sais pas quoi, classé ou pas classé, peu importe. Mais eux, ça y est, tout de suite, ils savent, comme tu dis, Henrik, d'où tu viens,
qu'est-ce que t'as pris. C'est la facilité d'emploi qui crée, qui crée l'assurance. Là, je me suis connecté à SNCF Connect, par exemple, ils demandent à utiliser le NFC, que moi, je connecte pas. Donc, sauf si je voyageais et que j'ai besoin d'eux, je le mettrai en place. Mais a priori, ils disent maintenant, c'est génial, vous passez votre portable devant la borne et c'est réglé, quoi. Et moi, je veux pas sortir mon portable et je préfère sortir ma carte Navigo ou un billet de train, etc. Bon, voilà, j'ai pas envie de me balader avec d'une part un sac, d'autre part mon portable dans une main et me faire piquer mon portable par un malfrat qui passe par là, comme il y en a à Paris actuellement. Puisqu'on ne peut pas mettre un flic derrière chaque...
Non.
Bref.
On ne peut pas mettre un flic derrière chaque IA.
Voilà. Derrière chaque IA.
Hello, bonsoir, bonne nuit, au revoir. The Poznan Radio Show, Radio Libertaire. Terre. Yeah.
Ouais.
Alors, un article.
Un article défini ou...
Fourni par la...
Pas défini.
Fourni par Gogol.
Ah non, non, et ça marche pas, Gogol. J'avais un joli article sur Monsieur Rousseau, mais finalement j'ai changé d'avis, c'est pas la peine de parler de lui.
Attention, ne cognez pas trop le pied du micro, s'il vous plaît.
Non, mais c'était pour montrer mon désintérêt.
Ok, tu parles de ce que tu veux.
C'est celui qui possède 700 hectares et...
700, ouais. Non, 700 000.
Non, 700 hectares.
Ah pardon, excuse-moi, j'ai
regardé un article du... À vrai dire, il y a un tas d'articles intéressants sur ce qui vient de se passer. Je pourrais relever, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler, le fait que l'OFB, qui est la police, en quelque sorte, qui se retrouve sous la tutelle des préfets, sous prétexte qu'elle est armée, Olivier-Vilain, ils sont armés, comme si à Paris, ils n'étaient pas armés. Vous vous rendez compte, ils viennent... Enfin bon, je ne veux pas arrêter là-dessus.
Mais l'OFB,
j'ai un sujet plus intéressant. J'ai un article d'une dame qui s'appelle Claire Legros, et je ne sais pas exactement son métier, mais elle a écrit un article qui s'appelle « Paysan », et je vais vous lire parce que c'est intéressant. Elle dit « La figure du paysan... » On n'a pas parlé de paysans pendant ces jours-ci, on a parlé d'exploitants agricoles. Hein, mais enfin, moi, je vais parler paysans. A participé à la construction de l'identité républicaine avant d'être remplacé par le métier d'agriculteur au moment de la modernisation agricole. Elle est aujourd'hui remobilisée par différents acteurs aux convictions opposées. Ah. Histoire d'une notion. Il s'affiche sur les t-shirts des agriculteurs en colère et il s'invite dans les discours politiques. Alors que le mot paysan n'est plus guère employé dans les autres pays européens, il reste associé en France à une identité forte, un imaginaire marqué par un ancrage territorial et une relation particulière à la terre et au vivant. Cette figure idéalisée fait aussi l'objet de batailles entre les différents acteurs qui y projettent des valeurs opposées, entre nostalgie du passé et aspiration à inventer de nouveaux modèles durables. Cette polysémie raconte à sa façon le grand chambardement des campagnes françaises, décrit par l'historien Fernand Braudel, celui d'un monde qui a basculé en quelques décennies dans la modernité, jusqu'à faire exploser tous ses repères et qui se retrouve parcouru de clivages profonds en quête d'un avenir possible. Attesté depuis le XIIe siècle au moins, le mot paysan est dérivé du latin paganesis, du village du canton, et c'est à partir du XIXe siècle qu'il prend une importance politique en France, lorsque monarchistes et républicains tentent de rallier l'opinion à leur régime. Ces batailles s'intensifient à partir de l'instauration du suffrage universel masculin, donc 1848, souligne le politiste Édouard Morena, qui en a retracé l'histoire dans sa thèse. Les républicains et les forces réactionnaires célèbrent le paysan en le présentant comme l'âme de la nation pour capter l'électorat rural. La construction de l'identité républicaine intègre des dimensions fortes de cette paysannerie associée à un ordre historique qui dépasse les camps politiques. La paysannerie était extrêmement politisée au moment de la Révolution française. Même s'ils ont été déçus ensuite par ce qui s'est passé, à savoir ils n'ont pas pu racheter les terres parce qu'ils n'avaient pas de rond et c'est les bourgeois qui les ont rachetées. Bref, les terres dont avaient été expropriées les religieux. Mais je m'égare là. Donc je continue l'article. Les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale vont bousculer cet ordre historique. Les lois de modernisation ouvrent la voie à la motorisation, à la généralisation des engrais et des semences industrielles et au remembrement des terres. Quand, en 1967, le sociologue Henri Mandras publie la fin des paysans, son constat fait l'effet d'un coup de tonnerre. Le sociologue ne se borne pas à anticiper la diminution brutale du nombre de travailleurs de la terre, il annonce la disparition d'une civilisation paysanne millénaire. Et en quelques années se produit un bouleversement à la fois social, culturel, économique et paysager, explique le sociologue Bertrand Hervieux, co-auteur d'une agriculture sans agriculteur avec François Pursaigle, presse de Sciences Po, en 2022. Jusqu'à considéré comme un patrimoine, la terre devient un outil de travail et la ferme une exploitation conçue pour approvisionner l'industrie agroalimentaire. Et le mot paysan lui-même est ringardisé au profit du métier d'agriculteur. Cependant, il ne tarde pas à ressurgir au sein des syndicats agricoles de gauche, et devient un signe de ralliement de la contestation de l'agriculture intensive, le mot paysan donc. La Confédération paysanne, créée en 1987, s'inscrit d'emblée contre le modèle productiviste. Elle participe à la rédaction de la charte qui définit l'agriculture paysanne comme « devant, ouvrez les guillemets, devant permettre à un maximum de paysans de vivre décemment de leur métier en produisant sur des exploitations à taille humaine une alimentation saine et de qualité, sans remettre en cause des ressources naturelles de demain », fermez les guillemets. Et loin d'un retour au passé, il s'agit d'inventer un modèle qui prend des distances, ses distances avec l'idéologie du progrès et son orientation exclusive vers un avenir technologique pensé comme meilleur, affirme l'anthropologue Élise de Melanareire, qui a notamment travaillé sur la construction du réseau Semences Paysannes. Mais dès cette époque, d'autres syndicats se réclament eux aussi de la figure de paysan. Marquée à droite, voire à l'extrême droite, la coordination rurale dénonce dès 1993 un génocide paysan et invoque des enjeux de civilisation en référence aux sociétés paysannes d'avant-guerre. À partir des années 2000, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, donc la FNSEA, syndicat majoritaire et principal soutien de l'agriculture intensive, s'empare à son tour du mot comme d'un outil pour promouvoir le mythe d'une unité paysanne. Ouvrez les guillemets, elle oppose le monde paysan qui fait vivre la campagne à l'urbain, voire à l'écolo des villes, dans un discours qui gomme les disparités de pratiques et de revenus, alors même que son président est plus proche de l'agro-industrie que de l'imaginaire paysan, observe Édouard Morena. Selon la sociologue Geneviève Pruvot, qui consacre ses recherches aux néo-paysans, cette appropriation sémantique s'apparente à une nouvelle OPA de l'agro-industrie. Après l'accaparement des terres, elle récupère un terme aujourd'hui valorisé. Pour le politique Bertrand Hervieux, ces luttes d'appropriation témoignent de la force du mot. Ouvrez les guillemets, derrière l'imaginaire du paysan, il existe un tas d'attentes environnementales, alimentaires ou paysagères que la société projette sur les agriculteurs. Cela n'a rien à voir avec l'agriculture d'aujourd'hui, qui pour une large part est devenue une agriculture d'entreprise sur des marchés mondiaux, et c'est le gros malentendu du monde agricole qui se désespère qu'on ne l'aime pas tel qu'il est, et qui préfère renvoyer une image fantasmée pour se faire aimer.
Oui, pardon.
That is the end, comme disait. Sinon, j'en ai un autre qui s'intitule « Les figures imaginaires de la ruralité desservent autant l'écologie que les agriculteurs » de Alix Ricot, qui est doctorante en littérature comparée à l'Université libre de Berlin et qui travaille sur la formation des imaginaires collectifs et la représentation de la ruralité en Allemagne et en France. Elle est également rédactrice pour le média en ligne et l'esprit critique. Mais je ne vais peut-être pas lire parce que ça ressemble beaucoup
à ce que tu viens de lire.
Oui, sinon qu'elle ajoute, et c'est un peu, ça fait partie du titre, que les représentations nostalgiques et idéalistes qu'on a des paysans, avec en groupant sous un même mot des situations qui sont complètement différentes, voire opposées, ayant des. Bon, ces représentations empêchent de faire advenir le thème de l'innovation dans les discussions. Il faut quand même savoir que il y a une moyenne des exploitations agricoles qu'on trouve très facilement sur Internet, qui est de 96 hectares. Bon. Alors, j'ai regardé la médiane. Alors, j'ai trouvé facilement la médiane. J'ai pas trouvé le reste, mais j'ai trouvé la médiane. 38 hectares. Ce qui veut dire qu'il y a autant d'exploitations agricoles de moins de 38 hectares que de plus de 38 hectares. Ça relativise un petit peu ces 96 hectares en moyenne. C'est pas réparti uniformément. Il y a la moitié des agriculteurs qui utilisent pour vivre donc des exploitations agricoles de moins de 38 hectares. On est loin, je dis, des 96 hectares. D'où ça vient ces 96 hectares? Ben c'est que de l'autre côté, dans les exploitations les plus grandes, c'est-à-dire celles qui représentent les 25% les plus grandes, en moyenne, avec un petit calcul, on arrive environ à 300 000 hectares par exploitation. C'est pas du tout le même boulot. quelqu'un comme Monsieur Marc Fesneau, donc, qui est agriculteur en Île-de-France. Il a 700 hectares. Alors c'est marrant parce que en Île-de-France, j'ai trouvé un texte qui régit la surface. Il y a une surface minimale d'exploitation agricole qui est 12 hectares et demi, en dessous de laquelle on ne peut pas décemment espérer vivre de l'exploitation agricole. Et puis il y a une surface maximale des exploitations agricoles, ça c'est très surprenant. Quand on voit actuellement des exploitations, enfin des regroupements de plus de 1000 hectares, il y a une surface maximale qui, elle, n'est pas nationale, qui dépend des régions apparemment. Et pour l'Île-de-France, c'est 135 hectares. Alors, est-ce qu'on peut déroger et avoir plus ? Oui, oui, on peut déroger et avoir plus. Il y a des conditions, et donc je vais vous en donner, par exemple, un petit aperçu, si je trouve, en 2 minutes. J'ai trouvé ça sur un document signé par le préfet, qui est Monsieur Guillaume. Et il y a un seuil d'autorisation préalable, donc, qui est 137 hectares. Après 137 hectares, il faut déposer donc une autorisation préalable pour un agrandissement. Et il y a un seuil fixé pour l'agrandissement excessif en Île-de-France. Ce seuil d'agrandissement excessif, c'est 1,5 fois le seuil fixé de 137 hectares par associé exploitant, augmenté de 100 hectares pour un salarié à temps plein au maximum par associé exploitant. Donc il donne deux exemples très faciles. Le premier avec deux exploitants et un seul exploitant et un seul salarié à plein temps plus des saisonniers. Ça fait un maximum de 511 hectares. Et puis un autre exemple avec 8 salariés à plein temps, ce qui n'a aucune influence sur la superficie d'exploitation, puisque c'est limité à une aide exploitante par associé. Et donc là, on arrive à 611 hectares. Bon, très bien. Je ne sais pas donc comment il a fait pour avoir 700 hectares, plutôt si je sais, parce que j'ai trouvé un article de France 3 Régions, non, c'est pas ça, de France Info, qui explique que des agriculteurs ont enquêté sur les fermes du président de la FNSEA en se demandant comment il avait fait pour avoir 700 hectares. Eh bien, il n'a pas procédé en agrandissant, en suivant le texte de M. Guillaume. Donc, je ne sais pas pourquoi on prend des textes s'il y a moyen de les contourner. Toujours est-il que lui, il a transformé son exploitation agricole en une société avec des parts. Et il a dû faire pareil pour la société d'à côté au moment où il l'a racheté, quand il s'est agrandi, ou ses parents, ou je ne sais pas. Et toujours est-il qu'avec ce modèle-là, il a arraché des parts de l'exploitation voisine, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et quel est l'inconvénient ? Ben, s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait racheter l'exploitation, elle aurait été mise en vente. Là, il prend peut-être subrepticement, peut-être, enfin, il n'y a pas besoin d'avertir beaucoup, quoi. Il prend des parts dans la société à côté, et puis finalement, parce que quand on s'agrandit en agriculture, c'est pas en achetant des terres à 1000 km, quoi. C'est le champ à côté. C'est le copain d'enfance qui a grandi avec vous, puis son exploitation marche moins bien, et paf, on reprend. Bon, c'est dur, mais c'est comme ça, quoi. Mais là, en fait, il y a une sorte de... Si quelqu'un d'autre, un autre voisin voulait racheter la ferme pour en faire quelque chose, il n'a pas su, en fait, que la ferme était à vendre, puisqu'elle n'a jamais été à vendre. C'est une part de société, donc il a pu racheter progressivement. On trouve, par exemple, des sites sur Internet pour racheter des parts de sociétés agricoles. Il suffit de dire ce qu'on veut, voilà. Donc, ça, c'est pour dire simplement que je me demande pour quelles raisons on prend des textes avec un préfet associé à ces textes. Là, c'est une annexe 1 que je vous ai lue. Pourquoi on prend des textes s'il y a possibilité de finalement faire absolument ce qu'on veut en créant une société. Bon, petite remarque. Je vais peut-être dire plus, mais je suis pas sûr de retrouver le truc, non. Alors, il y a plusieurs formes de société quand on est agriculteur. Il y a l'exploitation individuelle, dans laquelle on sépare les biens personnels de l'exploitation, quoi. Et puis il y a trois ou quatre autres formes, et la dernière, mais j'ai pas les papiers sur place là, et celle qui doit permettre ce genre de petit arrangement bien pratique. Donc ça fait qu'on se retrouve avec d'énormes surfaces. Bon, très bien. Ensuite, il râle beaucoup parce que il y a 14 textes pour régir les haies. Bon, très bien. J'y connais rien, donc je ne veux pas dire quelque chose. Ce que je remarque simplement, c'est qu'on détruit chaque année 23 000 km en France, 23 000 km de haies. Ah, ça c'est un chiffre estomacant. Et il n'est pas connu que de moi, puisque dans le texte qui sert, que j'ai trouvé sur Internet, qui est le texte du ministère de l'Agriculture, quand M. Fesneau s'en est occupé cette dernière année, en 2023, lui, il parlait de remettre en service, il mettait de l'argent pour remettre en service 50 000 km de haies. Donc il voit bien que le problème existe. Donc les gens qui, dans leur coin, veulent faire ce qu'ils veulent avec les haies, s'il vous plaît, pensez à tout le monde et pas seulement à votre exploitation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, parce qu'ensuite, j'ai m'énervé.
Oui.
Libérer les haies. Voilà, libérer les haies.
Ah oui, oui. Et faites des haies, parce que oui. Je crois que ça pose problème quand il n'y a pas de haies, quand il y a de la pluie.
Bah oui, c'est ça.
Oui, ça retient beaucoup de choses dans le sol.
Il y a le problème du ruissellement, donc.
Et des insectes, il y a beaucoup de choses.
Et puis tout ce qui vit dans les haies.
Oui, tout à fait, oui.
Bon, mais les oiseaux, tout ça, oui.
Mais des oiseaux, il y en a beaucoup moins qu'avant, soyez
rassurés. Ah oui, mais ça, c'est sûr que les oiseaux,
c'est énorme. Est-ce que c'est encore la peine d'en parler?
Ah oui, malheureusement, si, quand même. Eh oui. Et puis ça coupe le vent, ça, voilà, c'est...
Yeah.
Radio Libertaire, Rail de Poste non-radio show. Ce soir, on est sérieux, mais je ne sais toujours pas caler un disque vinyle correctement. Décidément, je n'apprends rien.
Je profite un peu pour parler des syndicats agricoles.
Attends,
j'ai un truc sympa là.
Attends.
Oui.
Deux petites minutes. Donc, évidemment, puisque je ne sais pas caler un disque vinyle, c'est que la programmation de ce soir, c'est à base
de vinyle.
À l'instant, de Brian Johnston Massacre. Juste avant, Public Image.
Public Image Limited.
Limited.
Pile.
Juste avant, il y a eu Salt. Et encore avant, il y a eu Skeletal Family. Et c'était le groupe japonais Goat, la chèvre, qui commençait l'émission. Et pour la clôturer tout à l'heure, on écoutera un long disque conceptuel, Sonic Youth et Jim O'Rourke, paru en 1997 et republié en 2023 par le label Sir Radio Amatorodge. Et donc deux très longues plages, plus un petit morceau, face A, face B. Et dans les remerciements, il remercie donc l'Universala Esperanto Asocio et l'Esperanto Ligo por Norda. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ici.
Oui, j'ai...
Alors, c'est quoi ?
J'ai compris des choses, oui.
Universala Esperanto Asocio.
C'est la plus grosse association mondiale d'Esperanto.
Et il remercie aussi Esperanto Ligo por Norda.
Ah. Oui, la Ligue du Nord. Alors, je ne sais pas ce que ça comprend, hein, la Ligue du Nord.
Je ne pourrais pas te dire.
La Ligue du Nord, alors...
La Ligue du Nord ?
Oui, mais c'est aux USA, ça. Ouais.
Alors, j'ai l'impression que ça est, c'est Sir, est un label hongrois, puisqu'il y a un titre qui s'intitule Hungara Vivo.
Oui, vie hongroise.
Je ne sais pas si ça vient de Hongrie, c'est au pressage ou pas.
Alors, je ne sais pas. Ouais.
Voilà.
Il n'y a pas un petit astérix avec un renvoi pour dire un peu ce que ça, de où ça vient?
Non, non.
Je crois que le label Sire...
Non, S-Y-R.
Ah,
pardon. Non, c'est pas le label Sire, le label américain.
D'accord, ok, voilà.
Oui.
Effectivement, ça peut prêter à confusion. Hein.
Non, mais la Ligue du Nord, ça serait marqué du nord de l'Amérique, quoi. Ça serait Canada et États-Unis. Voilà. Parce que là, ça peut être effectivement une ligue espérantiste de Hongrie. Ouais. En Hongrie, c'est assez fort, ouais. C'est les seuls qui font... c'est officialisé par le pays de passer le bac en espéranto, par exemple, voilà, et d'être d'être reconnu.
Peut-être que nous tenons là l'explication.
Oui, voilà.
Des remerciements.
Oui.
Il y avait quelque chose d'intéressant.
Mais c'était pour parler, les syndicats en France reçoivent des aides, donc les syndicats agricoles reçoivent des aides. Il y a 4 syndicats agricoles, il y a la FNSEA, la coordination rurale, et puis...
La confédération paysanne aussi, je crois.
La confédération paysanne, voilà. Il y a peut-être d'autres syndicats, il y a
les jeunes agriculteurs, etc. Oui.
Mais disons les 4 principaux. Et donc, ils reçoivent des subsides de l'État. Et alors, l'article du Canard intitulé « Fesneau promet du blé à son syndicat préféré », je vais vous en donner la teneur, c'est un article de D.H. et C.L. Autrement dit, je peux pas, j'en sais pas plus.
C'est le canard enchaîné, c'est normal.
Oui, c'est le canard enchaîné. En cherchant, on doit pouvoir trouver, mais là, j'ai pas cherché. Après des cadeaux du gouvernement, les tracteurs de la FNSEA ont été les premiers à rentrer à la ferme. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des tracteurs de la FNSEA. À mon avis, c'était plutôt coordination rurale, mais admettons. La récompense réponse ne devrait pas tarder. Gabriel Attal a sur son bureau de Premier ministre un projet de décret qui va renforcer l'hégémonie du premier syndicat agricole chantre du productivisme. Le document en question, qui fixe une nouvelle règle de répartition de l'argent public alloué aux syndicats, est prêt depuis décembre. Bon, donc, bref, ce truc était prêt depuis décembre et donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui vient de se passer dans le monde agricole.
Ah.
C'est ça que j'en déduis, hein, c'est un peu contradictoire.
Oui, hein, oui, bon. Tout à fait.
Le décret entrera en vigueur pile poil dans un an au lendemain des prochaines élections professionnelles. Ce sera un scrutin à un tour avec une prime en nombre d'élus à l'organisation arrivée en tête. Alors, il faut savoir que jusqu'en 2013, l'argent public était réparti de la façon suivante. La moitié en fonction des voix recueillies, l'autre selon le nombre d'élus. Et donc, à ce petit jeu-là, la FNSEA raflait la mise à tous les coups. Et pour rééquilibrer un peu les choses, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture du président Hollande, avait fixé la clé de répartition, non pas à 50-50, mais à 75% pour l'élection et 25% pour les élus. Mais ceci donc pour les trois syndicats minoritaires qui défendent les intérêts des paysans, c'était une aubaine. La coordination rurale, la Confédération paysanne et le MODEF récupéraient à la fois plus d'élus et plus de pognon. Une avancée démocratique jamais digérée par la Fédé, pilotée par les céréaliers et les grosses coopératives agricoles. Avec l'arrivée de Fesneau à l'agriculteur en 2022, la FNSEA a retrouvé le gîte et le couvert rue de Varennes et obtenu que le ministre rédige un décret aux petits oignons, la ramenant plus de 10 ans en arrière. À ce tarif-là, les dirigeants du syndicat n'avaient pas prévu de sortir les tracteurs contre le ministre. C'est la coordination rurale qui a lancé la jacquerie et obligé la FNSEA à suivre en traînant les sabots. Mmh. En sortant des fourches la première, la coordination rurale espérait engranger un maximum de voix aux élections de janvier prochain. Ce n'est pas encore gagné. Pendant toute la durée de la crise, l'exécutif a pris soin de ménager son chouchou syndical. Dans les réunions départementales, les préfets avaient pour consigne de recevoir en tête-à-tête les représentants de la FNSEA et surtout d'y aller mollo sur les barrages avec leurs adhérents. Cette bienveillance remonte jusqu'au château, c'est Marianne. Le 1er février. Et Arnaud Rousseau, l'actuel président du syndicat, dirige Avril, on a parlé la semaine dernière, un géant de l'agroalimentaire qui affiche 9 milliards de chiffre d'affaires, emploie 7300 salariés, un groupe que Macron en personne conseillait lorsqu'il était banquier d'affaires chez Rothschild, toujours une histoire de blé.
Oui.
Voilà.
Effectivement, les FNSEA ne sont pas toujours des gens très respectables, apparemment. La FNSEA n'a pas l'air d'être un syndicat très respectable.
Si, si, très respectable.
Oui. Quelle affirmation, effectivement.
Attention aux tonnes de purin devant ta porte.
Ah oui, oui, ah oui.
Tu vas avoir droit.
Ah, mais c'est pas la FNSEA qui mettait du purin devant les portes. Hein.
Tu as droit à du caca de cochon devant chez toi.
Ah non, mais non, c'est pas la FNSEA, c'est d'autres personnes, d'autres syndicats. C'est surtout ça, quoi. Mais bon.
Non, ce qui est. Enfin, bon, j'ai pas envie d'en parler plus.
Ah, bah oui, bah, tu nous entretiens depuis la semaine dernière. C'est devenu un feuilleton, là. On va tout savoir.
Bah, écoute, il y a un truc que j'ai pas beaucoup développé. Mais j'ai l'article éventuellement. C'est un article sur l'OFB mis en tutelle par les préfets. Ça, c'est pour les gens qui voudraient chercher, c'est le 4 et 5 février, parce que c'est un week-end. En page 5, c'est là-dedans que j'ai trouvé que les haies avaient diminué de 23 000 km par an. Bref. Et qu'il était question de faire passer la législation sur les haies de 14 règles à une. On va rigoler.
Oh.
Ils vont s'emmerder. Bon, c'est là-dedans que j'ai vu également, il y a un tas d'articles, page 6-7 par exemple de l'article. Dans le monde du 7 février, il y a deux pages sur Salindre. Qu'est-ce qu'il y a à Salindre ? Eh ben, il y a un gros problème avec une usine qui a déversé pendant des années des PFAS.
Oui.
Et donc.
Tu peux rappeler ce que sont les PFAS ? Oups.
Voilà. Et donc, non seulement des PFAS, mais ce qui. le plus petit des polluants éternels, ça s'appelle les TFA. C'est l'acide trifluoroacétique. Trifluoroacétique, le TFA. Il a comme particularité d'être constitué d'une chaîne ultra courte de carbone et de fluor. Une caractéristique qui le rend extrêmement mobile et ainsi ubiquitaire dans l'air et l'eau. Au point que son omniprésence est devenue un défi majeur pour l'approvisionnement en eau potable. Où ça ? En Europe. Voilà. Donc, employé dans la fabrication de pesticides ou de produits pharmaceutiques, le TFA est surtout émis dans l'environnement en tant que produit de dégradation d'autres phases, comme certains gaz fluorés. Et donc, ils ont été développés, c'est ça qui est triste, pour remplacer les chlorofluorocarbones, les CFC, qui étaient interdits en 1985, en raison de leur rôle dans la destruction de la couche d'ozone. Vous vous rappelez ces gaz?
Oui, voilà. Tout à fait. Oui, oui.
Donc, les gaz utilisés massivement comme réfrigérants dans les systèmes d'air conditionné, les pompes à chaleur et les frigidaires, n'oublions pas.
Mais ça n'a rien changé, finalement.
Si, la couche d'ozone...
La couche d'ozone a été reformée, c'est ça?
C'est partiellement... Elle s'est partiellement... Oui, oui, ça a été un progrès.
Parce qu'on nous a bassiné avec ça, quand même.
Avec tout, d'ailleurs.
Il y a eu une action qui a été efficace, quand même. Bon, ensuite, que ça
bien.
Se dégrade encore...
On va dire qu'il y en a un autre.
Mais ça se dégrade... Mais malheureusement, la couche d'ozone se dégrade encore, malgré tout.
Là, j'ai un peu dévié sur les TFA, mais en fait, à Saint-Lindre, qui est une petite ville sympa, il y avait une usine... dont on savait bien qu'ils ne fabriquaient pas des biscuits ou du chocolat, plaisantait, je pense. Depuis 2022, il est maire, c'est dans les Cévennes. Il n'est pas dans la zone interdite de Tchernobyl non plus, mais c'est quand même poubelle de France, entre guillemets, capitale de la pollution. Voilà. Et donc, à l'origine de la campagne d'analyse qui a été menée par l'association Génération Future, le Forever Pollution Project, une enquête internationale coordonnée par Le Monde publiée en février 2023, une usine de produits fluorés de Solvay, mais auparavant, ça a à voir avec Rodia, je sais pas, donc en fait Rhône Poulain qui est devenu Rodia, Solvay donc. Il a été identifié comme l'un des cinq sites de production de PFAS en France, mais il n'existait aucune information sur les niveaux de contamination dans les alentours. Alors, le groupe belge produit là des PFAS très particuliers, notamment de cet acide trifluoroacétique, le TFA, vendu à dose industrielle pour la fabrication de pesticides et de médicaments. Et donc, afin d'effectuer les prélèvements aux emplacements les plus pertinents, l'ONG s'est appuyée sur des données de géolocalisation obtenues par Le Monde par le biais des demandes d'accès aux documents administratifs au fil de plusieurs mois d'enquête. Il y a eu 10 échantillons prélevés à l'automne 2023 dans l'Arias et la Veine qui coulent de part et d'autre de la plateforme chimique, en amont comme en aval, encore plus loin dans le Gardon, mais aussi dans l'eau du robinet, commune située à plus de 20 km à vol d'oiseau au sud, à Moussac, à Bouquerand et Nozières. 9 d'entre elles révèlent des concentrations spectaculaires des PFAS produits par Solvay, des TFA en particulier. Les concentrations, normalement, en PFAS se mesurent en nanogrammes par litre, et ces cours d'eau, qui sont des petits coins de paradis pour cartes postales, infusent des polluants dans des proportions largement supérieures. Le TFA, c'est 7,6 millions de nanogrammes par litre dans le rejet de la plateforme et plus de 6,7 millions de nanogrammes par litre dans l'Arias, à 1 km en aval. Ils disent on ne s'attendait pas à trouver des niveaux pareils. On a été désagréablement surpris, à tel point que le laboratoire a dû s'y reprendre à deux fois pour faire les analyses parce qu'ils n'avaient pas calibré pour en trouver autant. Oh mon Dieu, c'est énorme. Oh là là, voilà comment plusieurs experts du monde réglementaire et scientifique consultés par Le Monde ont réagi et dénoncé des résultats. Niveau extraordinairement élevé, qui pourrait même constituer un record mondial, assure Yann Cousin, professeur de chimie de l'environnement à l'Université Stockholm. Bien que des concentrations de l'ordre des milliers de nanogrammes par litre aient déjà été mesurées dans des eaux de surface, je n'ai jamais vu de taux de TFA aussi élevé. Donc, jusqu'au prélèvement de générations futures autour de Saint-Lindre, le record malheureux était détenu par Neckar, un affluent du Rhin en Allemagne, avec 140 000 nanogrammes par litre en 2016. Là aussi, Solvay était à l'origine de la pollution. à Bad Wipfen, une usine de la firme qui rejetait jusqu'à 100 kilos par jour de TFA dans la rivière. La contamination s'était protégée jusqu'à Heidelberg, 50 km en aval. Les taux grimpaient jusqu'à 22 000 nanogrammes par litre dans l'eau potable. À Moussac et à Bois-Caron de El-Nosière, les concentrations de TFA atteignent 18 000 et 19 000 nanogrammes par litre dans l'eau du robinet. Et s'il y a vraiment des phases dans l'eau potable, 1. Je serais surpris, 2. Inquiet, et 3. J'aimerais qu'on m'éclaire sur la provenance de ces polluants. S'alarme Frédéric Salle-Lagarde, le maire sans étiquette de Moussac. On n'est pas du tout à proximité de Salindre, en tout cas pour penser qu'on puisse être impacté. Et Christophe Rivinck, le président d'Alès Agglomération, responsable de la distribution d'eau potable des 1000 habitants de Boucquoiron et Nosières, confie avoir échangé très récemment avec l'Agence régionale de santé, ARS, Languedoc-Roussillon. On m'a dit que les phases n'étaient pas d'actualité, qu'il n'y avait pas d'urgence en la matière, et l'ARS n'a pas répondu aux sollicitations répétées du Monde. Autre norme européenne, aucune norme européenne n'existe à ce jour pour les TFA. Donc, les valeurs limites issues de la directive européenne sur l'eau potable qui seront appliquées en France à partir de 2026 n'incluent pas le TFA. Jusqu'à présent, seule l'Allemagne disposait de valeurs limites sanitaires indicatives.
Sanitaires
indicatives.
Concentre-toi.
Établies dans un premier temps à 3000 nanogrammes par litre au maximum, elles ont été fait rares, révisées à la hausse 4 ans plus tard, à 60 000 nanogrammes par litre, sur la base d'une étude de toxicité chronique aux résultats rassurants effectués entre-temps par, devinez, Solvay. Les Pays-Bas ont, eux, pris la direction opposée. En avril 2023, l'Institut national de la santé publique et de l'environnement a fixé une valeur limite indicative pour l'eau potable à 2200 nanogrammes par litre, si et seulement si aucun autre PFAS n'est présent. Pointant les effets documentés sur le foie, le RIVM, qui est l'acronyme de l'organisme que je viens de citer, présume le TFA aussi toxique que les autres PFAS et s'inquiète de possibles répercussions sur le système immunitaire. À cela s'ajoute le fait que les autorités allemandes viennent tout juste de proposer de classer le TFA comme toxique pour la reproduction à l'Agence européenne des produits chimiques. La production de TFA a été stoppée à Bad Wimpen, mais pas à Salindre, où l'atelier de TFA a été ouvert en 1982. Pourtant, la première fois que le maire de Salindre a entendu parler des PFAS, c'était l'année dernière, quand on lui a fait le point avec les dirigeants de Solvay, se rappelle-t-il. Étienne Malachan en convient, quand on vit à côté d'un site chimique depuis des siècles, on sait que l'impact environnemental n'est pas neutre. Alors, cet héritage toxique de l'usine est massif, il est historique, il percole depuis des décennies. Au milieu du 19e siècle, l'entrepreneur Henri Merle, qui entend faire de Salindre un Manchester à la française, il crée la première usine d'aluminium au monde, les premières boues rouges toxiques aussi. À partir de 1899, le fluor provenant de la production d'acide fluorhydrique se faufile hors des murs et pollue les eaux, le sol, les végétaux. Lors de ses recherches sur les riverains des sites industriels, dans un truc qui s'appelle « Habiter la pollution industrielle aux presses de mines », la sociologue Christelle Gramalia de l'INRAE de Montpellier recueille les témoignages d'anciens. Il se remémore ces bêtes qu'il faut abattre dans les années 1950 et 60. Les dents noircies, gâtées par le minéral, vaches et moutons sont parfois dans l'incapacité de se nourrir seules. Au fil des décennies, l'usine de Salindre passe entre les mains de Péchinet, Saint-Gobain, Rhône-Poulenc, puis Rodia, avant d'arriver dans l'escarcelle du groupe belge Solvay en 2011. Au fil des décennies aussi, les industriels entassent boues, fûts et brouettes toxiques sur place et sans grande précaution. 11 millions de tonnes sont accumulées là de 1855 à 2008, date approximative, dit l'administration. Au sud-ouest du site, la colline de déchets que la poésie des arrêtés préfectoraux décrit comme un massif de résidus industriels atteint 35 mètres de hauteur et par endroit. Le TFA s'est niché jusqu'à 22,5 mètres plus bas dans les tréfonds des couches géologiques de l'Anthropocène. Seules les vues satellites permettent de prendre la mesure des bassins de décantation qui exhalent leurs couleurs perturbantes sur près de la moitié des 110 hectares du parc chimique. Un chantier de réhabilitation des bassins entamé en 2020 vise à stopper la contamination des deux nappes phréatiques. Il est moins dangereux de travailler à l'usine que de rester chez soi à vaquer à ses occupations habituelles type bricolage, jardinage ou cuisine, déclare en chemisette cravate son directeur d'alors dans le journal du 20h à Antenne 2 en 1991. Installation classée pour la protection de l'environnement et soumise à autorisation, le plus haut niveau de contrôle. Le site est également Céveso, seuil haut. Longtemps, la loyauté envers l'usine, assurée par les pratiques paternalistes des industriels, garantit le silence sur la pollution et ses dégâts. Les gens parleront entre eux et diront « lui, il est mort » ou « il y a eu pas mal de morts ». Mais sinon, c'est l'esprit de clan qui règne, car l'industriel fait vivre la population, raconte un habitant sous couvert de l'anonymat. C'est le projet d'installation d'une usine de traitement des déchets en 2007 qui fait éclore une véritable mobilisation. À la tête de l'association de défense des intérêts salindrois et limitrophes, Henri Allard, dentiste de profession, s'interroge sur les pollutions, interpelle les autorités et industriels, ne se fait pas que des amis, raconte que son fils Emmanuel, au téléphone depuis un cabinet de notaire installé au village, il ne se fait pas que des amis, et c'est son fils qui le raconte, donc aussi il fait revenir la télévision. Sur France 2, le présentateur David Pujadas introduit Salinde comme la capitale de la pollution en 2010. Que renferme exactement cette commune de déchets ? Officiellement, c'est du plâtre, ironise le lanceur d'arrêtes. Le lanceur d'alerte.
Oui.
Lanceur
d'arrêtes, elle est assez bonne. Mèche blanche au vent, et surtout, quels effets sur la santé des riverains ? Henri Allard a relevé dans le secteur plusieurs cas de glioblastome. Ce sont des tumeurs du cerveau, aussi rares qu'agressives, dont on ne guérit pas.
T'arrives à la fin ou c'est un livre ?
Non, je n'arrive pas à la fin. Et c'est important.
Ouais, bah tu nous préviendras la prochaine fois.
Quelques mois plus tard, l'agence de santé publique France est saisie par l'ARS pour enquêter. En 2013, à 63 ans, Henri Allard meurt avant d'avoir pu avoir ses résultats. Son fils reprend le flambeau. À l'époque, l'usine de déchets a été construite, tous les recours sont terminés, mais moi je voulais connaître les causes des glioblastomes, raconte Emmanuel Allard. Son propre beau-père est décédé de la maladie en 2011. Il avait été employé, puis agent de maîtrise chez Axens sur la plateforme chimique. L'étude de SPF est finalement publiée début 2020. Il existe bel et bien un cluster de glioblastomes à Salindre et Rousson, avec 9 cas recensés. Le taux d'incidence est 3 fois supérieur à la moyenne départementale. L'étude ne dit rien des causes. Seules sont mentionnées des hypothèses de facteurs génétiques, de radiation ionisante ou d'exposition professionnelle, notamment aux composés nitro-sourcés. Les tumeurs pourraient-elles liées à une exposition aux PFAS comme le TFA produit par l'usine de Solvay ? Cette maladie n'a pas été associée à une exposition aux PFAS pour le moment, expose la toxicologue américaine Javi David, directrice du Centre pour les sciences de la santé environnementale à l'Université d'État de l'Oregon. Je sais néanmoins que ce cancer du cerveau est en augmentation chez les pompiers et que la communauté des pompiers s'inquiète de la possibilité d'un lien entre leur exposition PFAS par les glioblastomes. Certaines mousses anti-incendie, mais aussi les équipements de protection des pompiers sont en effet connus pour contenir des PFAS. Les études supplémentaires sont nécessaires pour vérifier l'existence de ce lien, ajoute la toxicologue. Les glioblastomes ont beau être très rares, les témoignages de proches de victimes abondent. Claude Boudet vivait avec sa femme dans un pavillon en face de l'usine à Rousson, décédé en juin 2020, 1 an et 4 mois après le diagnostic. Dans la maison mitoyenne, le voisin est mort, lui aussi, même chose, quelques années auparavant. « On ne demande pas à ce que l'usine ferme », dit sa fille Estelle, encore très affectée, « mais juste à savoir si la source de la maladie peut être identifiée, que des mesures soient prises et que ça s'arrête et qu'on préserve la santé des gens. » Une mise à jour de l'étude SPF pourrait être rendue publique dans la matinée du mardi 6 février lors d'une réunion à la sous-préfecture d'Alès. Bon, voilà.
Eh bien, après...
c'est pas tout à fait fini. Le TFA est surveillé depuis 2011. Il sera difficile de relier avec certitude les cancers à une exposition particulière. Il y a des fluorures, de l'aluminium, de l'arsenic, des métaux lourds, des chlorures, des hydrocarbures. Le document répertoriait en 2012 pas moins de 62 substances émises dans l'environnement par les activités de la plateforme. Jusqu'en 2008, Rodia rejetait même du gaz moutarde directement par la cheminée. La pollution aux PFAS dure quant à elle depuis 4 décennies. Le TFA, un PFAS à chaîne de fluocarbone ultra courte, est de ce fait ultra mobile. D'après les documents obtenus par Le Monde, Solvay surveille le TFA dans ses rejets depuis au moins 2011, année où 340 millions de nanogrammes par litre de TFA sont mesurés dans les effluents bruts, soit 80 kilos par jour. Une étude commandée par des industriels du parc chimique explore la pollution des milieux la même année. Jamais rendue publique, elle détecte jusqu'à 49 millions de nanogrammes par litre dans la riasse de TFA dans la riasse et 16 millions de nanogrammes par litre dans les puits dont l'eau sert à arroser les potagers. La première valeur limite jamais fixée par les autorités pour les concentrations de TFA dans les rejets de Solvay ne date pourtant que de novembre 2017. Elle est de 125 millions de nanogrammes par litre par jour.
Il finit quand ton livre ?
10 lignes. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREL, ne semble pas prendre conscience qu'elle a affaire au fameux FAS, où elle ne semble en prendre conscience qu'en mars 2023. La valeur est alors abaissée à 75 millions de nanogrammes par litre. Cette limite paraît tellement énorme, s'indigne François Veillerette. Comment est-elle fixée au doigt mouillé ? A-t-elle été fixée pour qu'on soit sûr qu'elle ne soit jamais dépassée ? Ou est-elle une validité scientifique ? Pas de réponse. L'agence de l'eau expose pour sa part n'avoir jamais mesuré le TFA dans le secteur car la molécule ne fait pas partie de la liste des 1000 substances suivies dans le cadre de la surveillance environnementale opérée par l'agence. Voilà bien tout le problème. Les PFAS ne figurent pas dans la réglementation sur les émissions industrielles. Les rejets se font donc en toute légalité. Le fait que l'industriel ne manque pas de mettre en avant, Solvay respecte strictement toutes les réglementations et les seuils en vigueur sous le contrôle de la DREL, insiste Peter Bollaert, directeur de communication du groupe. La réglementation européenne n'est pas adaptée, les autorités sont en décalage avec la réalité, il faut une approche plus globale, etc. En 2023, à Dordrecht, aux Pays-Bas, une limite de 50 000 nanogrammes par litre de TFA a été imposée à l'usine de PFAS de Chemours sous peine d'une amende de 125 000 euros par infraction détectée. Voilà. À la suite de ça, il y a eu une réunion du maire avec des maires de la voisine.
Ah, c'est pas fini encore.
Et ils ont vachement gueulé en disant « Mais l'eau est potable ici.
Ouais. » Bon ben ouais. Voilà, on est mort. Entre la longueur de l'article... Et le sujet, là, on est mort finito.
Effectivement.
Dead. Faudra résumer la prochaine
fois.
Oui,
tout à fait.
C'est pas radiophonique, tout ça.
Mais voilà, donc.
Pardon. C'est un article qui est écrit par.
Signé par.
Aurélie Collat avec deux L. Et qui est. Oh, pardon.
Donc, ouais, elle nous a collé à la mauvaise ambiance.
Excusez-moi, je me trompe. C'est un article écrit par Stéphane Aurel. Je me trompais de page, qui est du mercredi 7 février dans Le Monde Planète. Mais c'est bien sur notre planète que ça arrive.
Oui.
Ouais, bon, écoute.
Alors, Henrik, sur l'article, il m'a plu quand même.
Tu vas rajouter une couche, toi.
Oui, une petite couche, parce que...
Ça fait un quart d'heure déjà qu'on est en train de sombrer.
Non, mais là, ça va aller
là.
Vite, et puis... alors,
ouais, va vite.
Alors, une petite couche, parce que... Je connais bien la petite ville d'ailleurs.
Ah, ah merde.
Bad Mimphen. Mm-hmm. Voilà. C'est de là que mon père s'est évadé en 42, a tenté de s'évader puisqu'il a été repris. Et Bad Mimphen, c'est une ville de bains, comme on dirait en Gain-les-Bains ou Vichy.
D'accord.
Voilà. Ah, c'est une belle petite ville.
Hein. En gros, ils se baignent dans la merde. Quoi.
Belle petite ville maintenant, mais reconstruite parce que ça a été entièrement
bombardée.
Guerre mondiale, bon, oui. Et puis, c'est directement. Il y a vue tout en haut quand on est dans la ville. Il y a la prison qui est tout en haut, la tour. Là, on voit encore la tour d'ailleurs. D'où mon père ne s'est pas évadé tout seul de là, mais c'est là. Et moi, j'ai habité là très courtement, mais voilà. Et donc je connais bien, c'est le Neckar qui est en bas, qui passe en bas. Il y avait des voitures qui s'appelaient Neckar.
Oui, puis ils en parlent dans l'article.
Neckar, oui. Ah bon, ils en parlent dans l'article aussi, oui. Alors,
un peu plus loin, parce que tu cites des villes, une ville qui est un peu en amont, je sais plus, à 30 km, et une plus haut. Plus haut, qu'est-ce qu'il y a? Le Neckar, il se jette dans le Rhin. Et le Rhin, alors ça doit être un truc, le Rhin. Et moi, je l'ai visité en étant en stage linguistique aussi là-bas. J'ai visité cette usine qui fait 2 km sur le Rhin, le long du Rhin comme ça.
Oui, oui.
Et vous allez comprendre tout de suite le nom de l'usine, c'est BASF.
Mmh. Ah, oui.
Qui, à cette époque-là, quand j'ai visité, était connue de moi parce qu'elle fabriquait, où vous voyez, c'était des cassettes audio.
Oui, les bandes magnétiques.
Voilà. Hein. Les bandes magnétiques, les cassettes audio. Oui. Et ils commençaient à faire déjà, pour les gens qui se cassaient une jambe et tout ça, du matériel
médical.
Mmh. Et ils commençaient à faire, au lieu d'avoir un plâtre très lourd et tout ça, ils faisaient ça en plastique déjà et tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il doit encore y avoir? Et ça travaille encore, ça, hein, je crois, parce que c'est repris par de... Je sais plus si ça s'appelle plus BASF, je sais pas quoi, mais... Alors, 2 km, mais de tuyaux, des gros tuyaux, des petits, des grands, des inimaginables, la construction qu'il y a sur le Rhin, là, directement. Mmh, mmh. Là. Voilà, tout simplement pour vous dire.
Merci pour ce...
On a mérité une belle pause musicale.
Deux
pauses musicales.
C'est carte postale touristique.
Et pas loin, il y a quand même une route qui s'appelle la route du vin.
En plus, est pollué, le pinard, la flotte.
Alors, oui, alors je raconte pas quoi.
Il n'y a plus rien à voir quoi.
Oui, parce que là on parle de l'eau, mais
c'est dramatique pour cette région.
C'est dramatique, oui.
Parce que c'est une région touristique.
Oui.
Alès, c'est une jolie ville. Il y a toute la région qui est autour. Donc tu ne soupçonnes pas un instant qu'il puisse y avoir une pollution. C'est des paysages, comme il rappelle au début de l'article, c'est des paysages enchanteurs. C'est sauvage, c'est beau, les gens sont charmants.
Oui, puis la route du vin, on se croirait en Champagne. Hein. On se croirait en Champagne, c'est vraiment... Mais là, bon...
Passer des vacances dans ce coin, c'est le rêve. Même en allant un peu plus haut, alors il ne parle pas un peu plus haut, mais enfin, il semble qu'à 20 km, il y a encore de la pollution. Je ne sais pas si ça... Enfin bon, bref...
Mmh. Okay. Allez, musique, s'il te plaît.
J'arrive même pas à m'évader de ma propre émission. Putain, voilà. Je suis pris en otage.
Allez,
là.
S'il te plaît, envoie la musique.
Ah ouais, la pitié là.
Oui, voilà.
Ah, il y avait deux pages. Hein.
Je crois que je vais confisquer le monde à quelqu'un. Il nous lira le journal de je sais pas qui, de Bibi et Noisette.
Je crois.